Radio Bac, notre septième, a prévu, comme annoncé en début d'émission, notre invité Didier Aldebert. Maire, alors, devine à ça, on va peut-être commencer par là, parce que quand même, les maires, il y en a encore, même dans les agglos, et ils servent à quelque chose. Je vous pique un petit peu, Didier Aldebert, mais vous êtes maire de Vinassin, c'est votre combien de mandats? Je crois que vous êtes assez récent dans cette fonction-ci.
Oui, alors, c'est mon deuxième mandat, j'ai été élu en 2008. Et j'ai été réélu en 2014, et donc je fête avec mon équipe ma 10e année de mandature là au printemps prochain.
Voilà. Alors, tiens, à propos de Vinassin, il y a une gendarmerie à Vinassin depuis peu de temps, pendant des décennies, voire je dirais presque des siècles. Elle était dans le chef-lieu de canton qui était Coursan. Comment se fait-il que tout d'un coup, cette gendarmerie ait été, entre guillemets, rapatriée à Vinassin? Pouvez-vous expliquer ça pour nos auditeurs?
Oui, alors c'était effectivement, la gendarmerie était depuis le début du siècle dernier, donc sur la commune de Coursan. Et en 2000, dans les années 2000, ils ont commencé à demander à évoluer dans leurs locaux. Et en 2010, ils sont venus me rencontrer, mais comme d'autres élus du canton, pour voir une implantation ailleurs sur le canton, une implantation un peu plus centrale par rapport à l'autoroute. Mais surtout, avant tout, ils voulaient des logements neufs. Et donc, ils ont proposé à Vinassin, et nous avons retenu cette proposition, et nous avons travaillé avec eux. Ça a été un travail qui a duré presque 7 ans, parce qu'ils sont rentrés donc dans les locaux en février 2017. Donc
oui, c'est tout récent.
C'est tout récent, tout à fait.
Et la proximité de l'autoroute a pesé dans la balance, dans le choix?
Alors, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est effectivement la proximité de l'autoroute, mais en plus, comme c'est une gendarmerie cantonale, que c'est un canton qui est relativement petit par rapport à d'autres cantons, ils se sont déplacés que de 3 kilomètres. Donc le côté central ne bougeait pas trop par rapport à leur intervention.
Voilà, donc le siège restait enfin relativement central et commode, mais ils avaient de la place pour avoir des beaux logements, en fait, c'est ça.
C'est surtout ça, c'est une volonté nationale, je pense que c'est le président Sarkozy à l'époque qui avait mis ça en place, de réhabiliter les anciennes gendarmeries qui dans certaines villes, dans certains villages, alors je parle pas des nôtres bien entendu, mais dans certains villages étaient vraiment des bâtiments du 19e, 18e siècle, et donc avec les nouvelles normes, notamment en matière d'isolation thermique, en matière de confort, tout simplement. Donc, il y a eu une forte demande du gouvernement à l'époque, mais de rénover ces gendarmeries. Et quand je dis rénover, je vais même au-delà, de faire carrément du neuf.
Oui, d'en refaire d'autres. Si ça n'était pas possible.
Voilà. Et donc, c'est issu, le déménagement là, enfin l'implantation à Vinassin, est issu de cette volonté nationale où, je dirais que sur quelques années, il y a eu énormément de gendarmeries qui ont été construites neuves, justement, pour répondre à ces problèmes.
Voilà, que nos braves gendarmes soient également confortablement logés. À propos de Coursan, vous êtes également, Didier Aldebert, conseiller, j'ai failli dire général, conseiller départemental, c'est comme ça qu'on dit maintenant, donc pour ce canton, oui, qu'on appelait jadis le canton de Coursan, mais qui a changé de nom.
Oui, alors je dirais que pour tout le monde, c'est encore le canton de Coursan, ouais, mais administrativement, effectivement, on l'appelle le canton des Basses Plaines de l'Aude.
Oui. Et alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu dans le magazine du département que vous préconisiez ou que vous parliez de la nécessité sempiternelle d'une déviation routière pour Coursan, dont on sait que le centre-ville est empoisonné par des passages de camions continuels.
Oui, ah oui. Alors il y a une étude qui a été lancée. Ça avait été pensé il y a quelque temps.
Ah oui, c'est pas nouveau cette
voilà,
demande.
Mais
l'ancien maire de Coursan, Monsieur Pla, l'avait déjà suggéré. Enfin, plus que suggéré.
Tout à fait. Ça avait été suggéré. Ça avait été pensé. Là, on est allé un peu plus loin que la pensée, c'est-à-dire que là, nous avons ouvert des études. Et effectivement, on va dire un peu plus global, parce que éviter qu'une seule ville, bon, mais très bien, mais il faut regarder effectivement la globalité de cette déviation, c'est-à-dire faire un peu Google Earth quand on est sur un territoire et regarder comment on peut vraiment optimiser cette déviation. Là, à l'occurrence, il y a la déviation de Coursan, certes, mais c'est également la desserte des plages au niveau de Saint-Pierre-la-Mer, au niveau des cabanes de Fleury. Il y a toute une étude, tout un plan à prendre en compte, la traversée de Saldaud, la traversée de Vinassin qui dessert aujourd'hui, qui récupère les gens qui habitent même dans l'Hérault, qui habitent Cuxac ou Veillant et qui travaillent à Bonne-Source, traversent en grande partie la commune de Vinassin. Donc voilà, s'il faut, je pense que dans les projets structurants comme ceux-là, il faut vraiment avoir une vision un peu plus globale. Et je terminerai en disant que je crois qu'il faut arrêter de penser, de rêver qu'une seule structure, là en l'occurrence le département sur ce dossier-là, ou le Grand Narbonne sur d'autres dossiers, qu'une seule structure peut porter des dossiers, on va dire, aussi importants que cela. Donc c'est là qu'il faut vraiment que toutes les collectivités, sur des projets globaux, puissent travailler ensemble pour pouvoir répondre à ces problématiques-là.
Mais avec le risque, comme le faisait remarquer Michel tout à l'heure, que ça traîne encore plus, puisqu'il faut se mettre d'accord.
C'est ça, voilà. C'est un peu la problématique on va dire, de la lenteur administrative d'un côté et également la lenteur peut-être politique d'une autre, où il faut vraiment trouver un consensus et avoir du courage politique et des décisions.
Voilà, en espérant que ça ira plus vite que la rocade est de Narbonne.
Sur la rocade est de Narbonne, alors là, c'est une problématique vraiment administrative que je pense que vous en avez déjà discuté, où là, en l'occurrence, là, on touche vraiment du doigt ces problématiques là de retard administratif, c'est-à-dire que on vote un budget, donc on bloque de l'argent, et pendant un certain temps, cet argent est bloqué parce que l'on va déplacer, pour des études là, en l'occurrence environnementales, on déplace des espèces, on trouve des mesures compensatoires, enfin bref, on perd 5, 6, 7 ans, où cet argent est bloqué, ne peut pas être, il faut que les auditeurs l'entendent, quand on vote un budget... Il est bloqué. Si, admettons, on prend cet argent pour le mettre sur un autre projet, on arrête le projet.
Donc voilà. C'est extrêmement compliqué, voilà. Délicat.
Et c'est dommage de mettre tant d'années avec de l'argent bloqué, de mettre tant d'années pour trouver les autorisations, on va dire, afin que cette rocade ouvre. Ouais. Là, j'espère qu'en juin 2018, ça sera enfin terminé.
On vous retrouvera peut-être pour l'inauguration, Didier Aldebert. Oui, juste un petit mot, Michel.
Oui, en rajoutant qu'il existe des outils qui permettent, en tout cas, de penser et de planifier ce genre de besoin, notamment le schéma de cohérence territoriale. Je me souviens de l'élaboration du premier, où j'avais fait observer que dans cet espace entre l'autoroute et la mer, quoi, donc espace très, très, comment dirais-je, complexe parce que très protégé, massif de la Clape, etc., on allait se retrouver dans les 20 ans qui viennent face à une saturation de circulation considérable qui rendrait les choses quasiment impossibles.
Et c'est ce qui se trouve aujourd'hui.
Le problème, c'est que autant que je m'en souvienne, après avoir fait quelques bulles autour de certains villages, notamment le vôtre, à l'époque, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le SCOT, justement, en matière de...
Quelque chose était véritablement prévu. Alors,
réfléchis sur
Didier Aldebert, votre point de vue là-dessus.
Oui, alors, sur le SCOT, on va dire sur la deuxième mouture, donc on est sur une deuxième mouture des SCOT qui, aujourd'hui, est terminée. Donc on lance une troisième, donc avec les services du Grand Narbonne. Sur la deuxième mouture du SCOT, il est prévu, effectivement, cette vision d'aménagement routier sur la partie que vous citez, entre, on va dire, Narbonne, Cuxac, Coursan et la mer. Donc ça, c'est marqué dans le SCOT, je reprends, c'est le schéma de cohérence territoriale.
Voilà, traduisez, Didier Aldebert, c'est fait.
C'est un schéma de cohérence territoriale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'urbanisme. Un document d'urbanisme pensé, étudié par les élus, par les habitants du territoire concerné. Et donc, ça a une durée de vie, grosso modo, de 8 ans. Et donc, on le remet à jour. Et là, donc, on va attaquer la troisième mouture avec le Grand Narbonne pour justement penser à ce que sera, on va dire, le territoire de demain, c'est-à-dire les infrastructures routières, mais également et surtout, et c'est notre première mission, c'est comment on fait vivre nos gens sur notre territoire. Vivre et travailler et habiter.
Et ça s'appelle la cohérence territoriale.
Tout à fait. Transport, habitat,
Alors, il y a encore un petit truc sur Vinassant avant de passer à l'ENIS, monsieur Aldebert. Récemment, j'ai trouvé ça pas amusant, c'est pas le mot, mais un peu insolite, l'orchestre d'harmonie de Narbonne a été chez vous pour répéter et commencer à enregistrer un disque. Pourquoi ce choix de Vinassant?
Alors, le choix de Vinassant, c'est parce que tout simplement, Bertrand Bail, qui est le chef d'orchestre, a également, est chef d'orchestre d'une association de Vinassant, d'un orchestre, qui s'appelle Remember Reconif, qui est un orchestre de jazz, et qui répète avec cet orchestre-là de Vinassant, de temps en temps, dans la salle, et il a trouvé dans cette salle...
Il y avait une bonne acoustique, alors.
Voilà, qui est une acoustique exceptionnelle, bon, ça c'est mon côté chauvin qui va dire comme ça, mais une très très belle acoustique dans cette salle, et quand on peut rendre service... on le fait avec grand plaisir. C'est aussi ça, l'intercommunalité, de ne pas regarder notre vision que de frontière entrée et sortie de notre village.
Voilà un bel exemple concret d'intercommunalité culturelle, oui, n'est-ce pas, Michel?
Et avec une spécialité de Avinassan que je ne connaissais pas, à savoir la production audiovisuelle,
musicale d'un disque. Ouais. Alors maintenant, à l'ENIS, prenons Didier Aldebert, votre casquette très importante aussi, donc de président de la Société d'économie mixte, qui jadis s'appelait Sénasud pour les gens qui ont un peu la mémoire du passé, donc qui gère un certain nombre de projets très importants pour l'agglomération narbonnaise. Et alors, notamment ces jours-ci, on en parle, mais on en parlera longtemps, la ZAC des berges de la Robine. Alors, expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
Alors, donc, tout d'abord, la société à l'ENIS, donc vous l'avez cité, c'est anciennement Sénasud, c'est une société d'économie mixte, qui est la société d'économie mixte du territoire du Grand Narbonne. Donc, effectivement, on travaille pour le Grand Narbonne, mais également pour tout le territoire du Grand Narbonne. Et on va dire les actionnaires de la société économique, c'est également la ville de Narbonne, la CCI et d'autres partenaires comme la ville de Port-la-Nouvelle. Là, en l'occurrence, le dossier dont vous me parlez, Alenis est donc concessionnaire de la mairie de Narbonne, qui est, on va dire, l'ordonnateur de cette ZAC qui se trouve, on va dire, entre l'aspirateur, et le parc des expositions jusqu'à Carrefour, avec au milieu donc le musée de la Romanité, qui, je précise, si je peux m'exprimer ainsi, est une enclave dans cette zone d'activité, vu que le musée de la Romanité ne fait pas partie de la zone d'activité des berges de la Robine.
Alors là, il y a un gros projet d'urbanisme, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, parce qu'un maire précédent, Michel Moynier, en avait fait un grand projet écologique, et puis, bon, qui est mort-né pour des raisons de changement de mairie, appelons un chat un chat. Bon, aujourd'hui, il y a un véritable projet qui est sur les rails et qui avance, d'urbanisme essentiellement.
Voilà, c'est un projet d'urbanisme qui est dans l'aménagement de 1000 logements, donc qui avait été pensé par le maire précédent, par Jacques Bascou, qui suivait effectivement le projet de M. Moynier au départ, qui a été repris donc par le maire actuel, par M. Mouly, et donc c'est la création de 1000 logements. Et sur une durée de 12 ans, une ZAC comme ça. Donc il a fallu répondre donc à des besoins, on va dire environnementaux, des besoins notamment là, en l'occurrence pour les Narbonnais qui connaissent bien, des besoins en loi sur eau, comme on dit, donc avec des problèmes hydrauliques très précis.
Oui, parce qu'il y a la Robine.
Parce qu'il y a la Robine à côté, parce qu'également on est sur un quartier qui était un marécage il y a très 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 longtemps de ça, et donc qui est un quartier en cas de d'inondation ou
sensible, quoi.
Un quartier très sensible. Voilà.
Oui. Et justement, alors il y a une partie donc de cette ZAC de la Robine qui est urbanisable, c'est la partie qui est donc, vous l'avez évoqué, du côté musée par rapport à la Robine. De l'autre côté, il y a tout un tas de terrains qui vont rester vierge, que va-t-il se passer?
Alors voilà, la ZAC fait 66 hectares, mais il n'y en a que 15-16 qui sont urbanisables, c'est-à-dire la partie, on va dire, côté Romanité, la partie de la Robine qui est du côté du musée de la Romanité, urbanisée aujourd'hui. De l'autre côté, donc, qui est au bord de l'autoroute, il y a 50 hectares qui, eux, sont utilisés pour répondre notamment à la loi sur eau. Et si je vais rentrer un peu techniquement dans les termes, mais ce sont ce qu'on appelle les zones compensatoires hydrauliques, afin de pouvoir urbaniser la partie en amont, donc la partie urbanisable.
Si vous me permettez, c'est un peu des éponges.
C'est un peu des éponges, et je précise bien pour, on va dire, les personnes un peu au courant techniquement, ce ne sont pas des bassins de rétention, ce sont des zones compensatoires hydrauliques. Alors, pour être très clair, quelle est la différence? Mais sur des zones compensatoires hydrauliques, on peut y faire des choses dessus. Ça pourrait être, alors je dis n'importe quoi, c'est pas les projets, bien entendu.
Espaces verts.
Ça peut être des espaces verts, ça peut être des espaces de sportifs, ça peut être des espaces, des jardins familiaux, par exemple, mais tout ce qui ne peut pas être urbanisé proprement dit.
Mais sachant que c'est inondable.
C'est inondable, c'est-à-dire c'est là que l'eau passera. C'est une zone de compensation, justement, hydraulique.
Voilà. Donc, cette précision est tout à fait utile. Alors, revenons maintenant, donc, sur ce projet d'urbanisme dont certains marchés viennent d'être attribués,
Trois lots. Trois lots viennent d'être attribués. Les permis sont déposés. On pense que les premiers coups de pioche, entre nous, peuvent débuter à partir de mars ou avril.
Le 18.
2018, oui, tout à fait.
Oui,
tout à fait.
Bon, oui, donc ça se concrétise véritablement. Tout à fait. Oui. Alors à ce sujet, il y a d'autres projets. Il y a un gros projet qui est très controversé aujourd'hui de la mairie de Narbonne, qui est la salle multimodale, qui doit se faire dans cette zone-là aussi, juste de l'autre côté de l'avenue Bermouli, mais la zone est concernée, avec bien entendu, une nécessité, si cette salle se fait, d'avoir des parkings, puisqu'il s'agirait de faire des grosses manifestations culturelles, sportives, etc. Et nous faisions remarquer récemment à Monsieur Mouly, donc le maire de Narbonne, ce phénomène. On va construire et on va, en même temps qu'on urbanise sur la ZAC des Berges de la Robine, on va supprimer des places de parking. Et lui nous disait, mais on va quand même récupérer des terrains, ou en tout cas, on va essayer de récupérer des terrains auprès d'Alénis, à côté de l'aspirateur, en vu justement de créer des nouveaux parkings. Pouvez-vous apporter des précisions là-dessus sur ce sont des pourparlers, c'est un accord, où est-ce que vous en êtes?
Non, c'est vraiment une étude que nous avons ensemble avec la mairie de Narbonne, donc effectivement pour trouver une solution d'attribuer des terrains au parking. Et là on est en train de discuter l'équilibre, on va dire, le bilan donc de la ZAC pour que ces terrains soient intégrés sous forme de parking. Effectivement, je confirme que l'on travaille là-dessus. C'est la volonté de la mairie de Narbonne qui, je précise, est le concédant, donc le donneur d'ordre de cette...
Et ces terrains seraient rétrocédés à la ville, ou qu'est-ce qui se passerait?
C'est-à-dire que ces terrains seraient mis à disposition de parking. Voilà, tout à fait. La forme administrative de la rétrocession n'est pas encore définie, mais ça serait mis à disposition de création de places de parking.
Voilà. Pour être clair, il s'agit de terrain du terrain qui se trouve entre l'aspirateur et le musée qui
c'est
a
ça,
sa
ça se situe dans cette zone-là, tout à fait.
Donc qui ne deviendrait plus constructible comme c'est le cas à l'heure actuelle sur le projet de la ZAC.
Tout à fait, c'était une option, mais juste pour préciser qu'une ZAC est sur une période entre 12 et 15 ans, et une ZAC entre le projet initial et la finalité, sa vie, ça évolue. Donc là, on est sur une première évolution, une première réflexion. Sur rien n'est marqué, on va dire, dans le marbre, sur une ZAC, on peut faire évoluer.
Oui, Michel a une remarque.
Oui, la seule, je dirais, la seule conclusion que l'on puisse tirer de cette affaire, c'est que de toute façon, mais ça c'est ma gestionnaire, là, c'est qu'une ZAC, ça doit s'autofinancer. C'est-à-dire que tout ce qui est fait ou pas fait, en fait, sur une zone,
va dépendre des ventes.
Doit trouver effectivement sa compensation financière.
Voilà.
En d'autres termes, si on fait un parking là,
oui,
il faut bien que ce parking-là soit financé par
des constructions
ailleurs.
Oui. Alors on va conclure là-dessus, Didier Aldebert. Ce projet, donc, bon, maintenant il prend tournure, mais ça aura quelle allure? Est-ce que vous pouvez donner une idée aux auditeurs de ce que sera l'urbanisme sur cette zone qui va jouxter tout à fait le musée de la Romanité?
Alors, c'est vrai que c'est très difficile, c'est pas très radiophonique d'essayer d'expliquer,
on vous demande pas de faire un dessin.
Mais alors, on va être sur des bâtiments qui vont varier.
Combien
entre
de
du
niveaux,
R,
par exemple?
Voilà, entre R+2 et R+5. Je précise bien, et là, les trois premiers lots ont été attribués à des architectes, justement, locaux, on est sur des variations de vagues sur le même bâtiment. C'est-à-dire un bâtiment démarre à R+2, monte en R+1, redescend à R+3. Donc on n'est pas du tout sur une vision, on va dire, de colonnes ou de grandes barres, comme ça se faisait dans les années 60 ou 70. On est sur quelque chose d'un peu plus, on va dire...
Il y aura plus de relief. Alors.
Il y a un peu plus de relief.
C'est ondulant. La Robine, en fait, de la Méditerranée proche.
C'est un joli terme. C'est ondulant. Voilà, tout à fait.
Oui. À ce sujet, à cause de l'inondabilité, il n'y aura pas de parking souterrain.
Alors, il n'y a pas de parking souterrain, effectivement, parce que vous l'avez compris par rapport aux problèmes hydrauliques, mais ce sont des parkings qui sont sous les logements. On n'est pas sur des parkings...
Sur le sol, quoi.
On est sur le sol et les logements seront en R+1 ou R+0,5 en fonction du terrain. Voilà.
Et alors, on a cru comprendre que ça sera des logements d'un certain standing.
Alors, ça va varier entre F2 jusqu'à F5, voilà. Ouais. T2, pardon, T2, T5.
Oui, d'accord. Bien, ben écoutez, merci en tout cas Didier Aldebert d'être venu nous expliquer toutes ces choses qui sont importantes pour l'avenir de Narbonne, sur lesquelles, bien sûr, on va revenir à mesure que ça avancera. Quand les premiers coups de pioche seront donnés, peut-être qu'on vous demandera de revenir faire le point à ce moment-là.
Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous.
Le prochain invité sera Henri Martin. Ben là, on va parler encore de projets. Alors, portuaire est important également à Port-la-Nouvelle, puisqu'il en est, entre autres, le maire. Merci et à la semaine prochaine.